Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région. À travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine, nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Marie Adias Valderrama. Épisode 3, Bordeaux, port de la lune, porte de l'espoir.
Aujourd'hui, je rendez-vous avec David Escobar en face de l'ancien siège de la Compagnie Générale Transatlantique. David est prof de langue espagnole au lycée Camille Julien. Né en France, il est petit-fils d'Espagnol. Son grand-père a participé à la construction de la base sous-marine, un épisode que nous avions longuement évoqué dans les tout premiers numéros de Podcastine. Il regrette aujourd'hui ne pas avoir échangé davantage avec son grand-père, Andrés Escobar. Depuis des années, il fait des recherches sur les traces de l'exil républicain à Bordeaux et en Gironde. Il a rassemblé l'ensemble de ces lieux pour en faire un trajet mémoriel qu'il a créé pour l'Institut Cervantes il y a quelques années. Je lui demande donc de me servir de guide pour la partie la plus importante de Bordeaux dans cette guerre d'Espagne, son port.
Voilà, donc nous nous trouvons sur le quai des Chartrons, et plus précisément au niveau du cours, au début du cours Xavier Dozan. Alors ce très beau bâtiment là, c'était autrefois le siège de la Compagnie Générale Transatlantique, qu'on appelait aussi Transat ou en anglais French Line. Et donc c'est un très très beau bâtiment, c'est sûrement un des plus beaux bâtiments du quai des Chartrons, qui a été immortalisé en peinture par le peintre Pierre Lacour au début du 19e siècle. Alors, la Compagnie Générale Transatlantique, elle a été fondée en 1855 par les frères Pereire, Émile et Isaac Pereire. Alors, ce sont deux figures très importantes de Bordeaux, bien connues à Bordeaux, qui étaient d'origine séfarade d'ailleurs, hispano-portugaise, et donc qui ont fondé cette grande compagnie de navigation nationale, qui était destinée non seulement aux passagers, mais aussi aux courriers et au transport de marchandises.
Avant de continuer à parler du rôle du port de Bordeaux dans l'exil et les transports des Espagnols, j'aimerais faire une parenthèse et revenir à une des premières personnes que j'ai interviewées pour ces podcasts.
Même si officiellement la France a suivi la politique de la non-intervention, en sous-main, de façon plus ou moins clandestine, la France a continué à aider la République espagnole, mais bien entendu pas avec les moyens qu'elle aurait pu mettre dans l'opération si la non-intervention n'avait pas été la doctrine officielle.
Vous vous souvenez quand on a parlé de la non-intervention dans la guerre civile d'Espagne? On a évoqué ces sujets complexes avec l'historien Bernard Lavallée dans les premiers épisodes de cette série. La France porte cet accord avec l'Angleterre et 27 pays le signent. Mais certains ministres dans les gouvernements de Léon Blum, ou même des personnalités qui s'illustreront aussi dans d'autres batailles, comme Jean Moulin, vont chercher à aider la République espagnole en sous-main. Et Bordeaux devient une scène importante dans cette histoire.
En dépit des déclarations officielles, le gouvernement Blum a aidé la République, et en particulier en ce qui concernait l'aviation. Et là, ce n'est pas... c'est une chose à souligner, parce que le ministre de l'Air de l'époque avait comme chef de cabinet quelqu'un qui va laisser un grand nom dans l'histoire française, c'était Jean Moulin. qui était lui nettement en faveur de la République, et qui va faire en sorte que la France, clandestinement, donne, ou plutôt vende des avions à l'Espagne, forme des pilotes dans plusieurs centres, il y en a eu deux ou trois, notamment un dans le sud-ouest, dans la banlieue de Villeneuve-sur-Lot, à Roger. Et en fait, la République française a aidé, donc, de façon clandestine, la République, mais elle l'a aidé aussi d'une autre façon. Elle l'a aidé en facilitant, de fait, l'aide qu'a apporté l'URSS à l'Espagne pendant cette période. Et dans cette perspective, Bordeaux a joué un rôle très important. Pourquoi ? Parce que l'aide soviétique à l'Espagne partait d'Odessa, sur la mer Noire, traversait les Dardanelles et allait dans les ports de Valence et arrivait dans les ports de Valence et de Barcelone. Mais dans le détroit entre la Tunisie et la Sicile, les sous-marins italiens, sans rien dire à personne, torpillaient autant qu'ils pouvaient ces bateaux, et on dit que l'URSS a perdu plusieurs dizaines de ces bateaux. Donc, devant cette perte énorme qu'entraînait cette route maritime, une nouvelle route a été imaginée. Elle partait de Mourmansk, au nord, à l'extrême nord de l'URSS, là où termine le Gulfstream, dont c'est un port qui est en eau libre toute l'année, et les bateaux descendaient le long de la façade atlantique jusqu'en France. Et le port choisi, pas le seul, mais le principal, a été le port de Bordeaux. Et là, alors le port de Bordeaux, les armes étaient déchargées sur le port, puis transportées en camion jusqu'à la frontière catalane, et tout cela, évidemment, dans la plus grande clandestinité. Alors, que les choses soient claires, le gouvernement était au courant, les douanes étaient au courant, la gendarmerie était au courant, mais il y avait d'accord tacite pour que ni la gendarmerie, ni les douanes ne voient passer ces camions d'armes. C'était une organisation considérable. Le Parti communiste français, avec de l'argent russe ou soviétique, avait créé une compagnie de navigation qui s'appelait France Navigation. Il y avait plusieurs bateaux. Et ils assuraient donc cet approvisionnement par des rotations deux fois par mois. Il y avait un bateau français, mais venant de Mourmansk, qui débarquait des armes ici à Bordeaux, et ces armes ensuite étaient transférées, comme je l'ai dit, vers la frontière catalane dans les Pyrénées orientales. Et cela a duré pendant des années, jusqu'à la fin de la République. Ça a duré jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1939. Et d'ailleurs, le dernier bateau qui soit arrivé à Bordeaux, le chargement a été transféré en Espagne et n'a jamais pu être utilisé. Les armes sont restées dans leur caisse en Catalogne parce que c'était la fin de la République.
Le fait que Bordeaux soit un grand port atlantique, situé donc dans le sud de la France, en a fait nécessairement un point stratégique dans le contexte de la guerre civile espagnole. Dès le début des hostilités en Espagne, donc à partir de juillet 1936, c'est une guerre qui s'annonce brutale, sans merci. Très vite va donc se poser la question de la fuite des civils républicains devant la barbarie franquiste. Et d'ailleurs, dès l'été 1936, on commence à évacuer en priorité des enfants et des femmes depuis les Pays Basques, depuis la Cantabrie, depuis les Asturies, c'est-à-dire en gros les nord de l'Espagne vers le golfe de Gascogne, comme les navires Habana, qui en juin 1937 quittent le port de Bilbao avec 4500 enfants, donc à destination de Bordeaux. Ces enfants vont arriver à Bordeaux et dans son deuxième temps, ils seront envoyés, notamment en Angleterre, et certains même partiront jusqu'en Union soviétique. Au bord de la Garonne, David Escobar nous parle de quelques passages importants dans l'arrivée des exilés à Bordeaux. «
en mai 1937, on a aussi un train un peu spécial qui va arriver à Bordeaux depuis Barcelone, avec à son bord 450 enfants, donc sans leurs parents, ils sont accompagnés juste d'éducateurs, hein. Et donc ces enfants sont envoyés en France, à l'étranger en tout cas, pour être mis à l'abri. Parce qu'on pense d'ailleurs à juste titre que l'Espagne n'est plus un pays sûr, notamment par exemple Barcelone qui est régulièrement bombardée. Et donc le projet, c'est que ces enfants soient envoyés à Morelia au Mexique, accueillis par le président mexicain, donc Lázaro Cárdenas, qui était vraiment un ami de la République espagnole, qui s'est beaucoup engagé pour accueillir des républicains espagnols. Et donc, ces enfants sont également passés par Bordeaux, par le port de Bordeaux. Et donc, ils se sont embarqués pour rejoindre le Mexique.
Les traces de ces passés sont toujours présentes en Gironde. Sur la plage de la Cano sont encore visibles les épaves de la Cantabria, un bateau qui s'est échoué avec 480 réfugiés à son bord. Cette nuit-là, la mer était très calme. Il n'y a eu aucune victime et il se trouve que les réfugiés espagnols ont pu bénéficier d'un bel élan de solidarité de la part des habitants de la Cano et aussi des quelques touristes qui se trouvaient là à ces moments-là.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre civile, Bordeaux n'est pas seulement un port de destination, hein, c'est aussi un port de départ depuis lequel des milliers de républicains espagnols pourront s'exiler en Amérique latine, dans les pays qui veulent bien les accueillir. Hein, c'est pas forcément toujours le cas, mais il y a certains pays qui se montrent plus accueillants que d'autres envers les républicains. Je viens de parler notamment du Mexique, du président Lázaro Cárdenas, qui va soutenir avec une grande conviction la cause républicaine et qui, au total, accueillera aux alentours de 20 000 Espagnols. Et donc, via cette compagnie générale transatlantique, plusieurs évacuations seront réalisées depuis Bordeaux, donc à bord de différents navires. Alors, on peut citer pêle-mêle, hein, notamment le navire Mexique, Cuba, le La Salle, le Ipanema également. C'est en fait le service d'évacuation des réfugiés espagnols, le SERE, qui était géré par le gouvernement républicain espagnol, qui va se charger de coordonner ces différentes opérations d'évacuation, parce que c'était quand même une opération complexe, dans la mesure où il fallait coordonner depuis toute la France. Alors les femmes étaient un petit peu éparpillées un petit peu dans tout le pays, alors que les hommes étaient encore concentrés, notamment à partir de 1939, dans les camps de concentration, donc sur la côte méditerranéenne. Voilà, donc c'est vraiment un gros travail de coordination réalisé par ce service gouvernemental républicain espagnol. Pour être tout à fait complet, hein, sur ces opérations d'évacuation, il y a quand même une mention particulière qu'il faut faire à propos de l'initiative de Pablo Neruda, hein, le grand poète chilien bien connu, qui s'était engagé corps et âme auprès de la République espagnole et qui a décidé de sa propre initiative de monter lui aussi une opération d'évacuation. Il s'agissait pour lui de faire émigrer vers son pays, le Chili, environ 2500 Espagnols. Il avait bien sûr reçu l'accord du président de la République chilienne, qui c'était le président Aguirre Cerda.
Même si les fonctionnaires chiliens de l'ambassade de Paris, sceptiques sur son initiative, ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, Neruda a réussi à mener à terme cette évacuation. Le Winnipeg est parti le 4 août 1939 du port de Trompe-Loup, 60 km au nord de Bordeaux. Là aussi, Podcasting a consacré un épisode à cette expédition.
C'est depuis ce port d'ailleurs que partaient la plupart des navires transatlantiques. Et donc voilà, depuis ce port de Trompe-Loup, donc à côté de Pauillac, tous ces Espagnols républicains ont pu rejoindre le Chili. D'ailleurs, Neruda considérait que c'était la plus belle œuvre de sa vie, hein, même au-delà de sa poésie. Hein. Ce dont il était le plus fier, c'était d'avoir pu monter cette opération d'évacuation. Avec un navire qui appartenait, il faut le signaler, non pas à la compagnie transatlantique, mais à la compagnie France Navigation, qui était, elle, gérée par des militants communistes. Voilà, donc c'était plutôt une entreprise avec des convictions, disons.
« 21 juin 1937, Pierre Dumas écrit dans le journal La Petite Gironde.
Et le drame continue. À 200 km de Bayonne, des combattants sont fauchés dans des tranchées, des villages brûlent, une grande cité de 130 000 habitants est écrasée sous les bombes et les obus. La guerre, c'est la guerre, n'en cherchons pas les responsables. Voyons-en les victimes, elles arrivent par centaines et par milliers. Les cargos et les torpilleurs, les barques et les paquebots les jettent sur nos plages, de la Palisse, Saint-Jean-de-Luz, sur les quais de Bayonne ou de Bordeaux. Comme les hommes s'habituent à tout et surtout au malheur de leurs semblables, nous nous émouvons à peine maintenant à ces informations en trois lignes où nous lisons « Cette nuit, 500 réfugiés de Bilbao, parmi lesquels 300 enfants, ont débarqué. »
À l'université Bordeaux-Montaigne, je rencontre Jesús Alonso Carballés. Il est professeur des civilisations de l'Espagne contemporaine et il a longuement étudié la question des enfants évacués en bateau de l'Espagne.
À partir de septembre 1936, la frontière terrestre entre la France et l'Espagne républicaine est coupée. La véritable masse, la masse la plus importante d'enfants évacués, est venue du front nord entre mars 1937 et octobre 1937, plus ou moins. Mais rien que sur le front nord, il faut tenir compte du fait qu'il y en a peut-être eu plus de 50 000. C'est un processus qui est un peu né grâce à l'initiative de l'ambassade d'Espagne à Paris et de différents groupes syndicaux, principalement la CGT et d'autres groupes français. Dans un esprit de solidarité, ils offrent la possibilité d'accueillir sur le territoire français des enfants proches ou immédiatement touchés par l'avancée de la guerre. Cette proposition est apparue en décembre 1936 et, en principe, elle a été relativement bien accueillie puisque le front nord, au début, était à peu près stable. Il y a eu un bombardement aérien, par exemple, le 4 janvier 1937, à Bilbao. Et en une semaine, entre le 7 janvier et plus ou moins le 14 janvier, le gouvernement basque a reçu près de 1700 demandes d'évacuation. Rien qu'à cause de ce bombardement. En d'autres termes, pour essayer de comprendre ou d'expliquer les raisons de cette évacuation, nous devons comprendre que le territoire républicain du front nord était bombardé presque quotidiennement ou de façon très continue à cette époque. Cette évacuation est organisée ou prévue pour être temporaire, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, tant que dure la guerre ou le conflit dans cette région. Le problème, c'est que dans certains cas, cette période va se prolonger dans le temps, pendant plusieurs mois, pendant des années, et même pour certains, pour le reste de leur vie.
Au cours de l'année 1937, les demandes de parents républicains pour que leurs enfants soient envoyés à l'étranger se multiplient. Bordeaux et La Rochelle voient arriver, lors du printemps 1937, des milliers d'enfants.
Cela ne veut pas dire que tous les enfants finiront en France. La dernière expédition, celle des 12 et 13 juin, qui part du port de Santurce, près de Bilbao, transporte 4500 enfants. Environ 3000 d'entre eux resteront en France et il y en a environ 1500 qui seront transférés sur un autre bateau qui les emmènera en Union soviétique.
Et puis il y a une question que je m'ai oublié de dire avant, mais qui est importante.
Et puis il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est le nombre de réfugiés qui arrivent par bateau. J'ai dit environ 50 000 enfants, mais avec les adultes, on est à environ 125 000 ou 150 000 personnes.
¿Cuáles eran un poco los factores que
hacían? ¿Quels sont les facteurs qui poussent les gens à aller dans un pays ou dans un autre? En principe, les parents pouvaient choisir la destination de leurs enfants. C'est-à-dire que sur les formulaires de demande, toutes les destinations n'étaient pas indiquées, mais la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique pouvaient être indiquées comme destination.
Forzosamente, aquellos que se dirigen a la Unión Soviética son aquellos que tienen.
Ceux qui allaient en Union soviétique étaient forcément ceux qui en étaient les plus proches.
O admiran un poco, digamos, lo que está haciendo Rusia por la República. En el caso de Gran Bretaña, solo va a ser un grupo.
Dans le cas de la Grande-Bretagne, il n'y a qu'un groupe d'environ 3800 enfants basques qui vont là-bas et le reste des gens vont en France.
De personas que llegan a Francia, hay un criterio que es muy significativo y es que los niños.
Il y a un critère qui est très important.
Son distribuidos la mayor.
Au début, les enfants sont répartis, dans la plupart des cas, dans des colonies ou dans des centres de vacances de différents syndicats et associations de travailleurs français. Les enfants ne restent pas dans la zone côtière. Ils suivent un peu les lignes de train.
Yo siempre cuento una anécdota, pero es que es bastante real y es que
je raconte toujours une anecdote, mais elle est bien réelle. Quand vous regardez le Tour de France, on voit passer un certain nombre de villages dans différentes régions de France. Eh bien, il n'y a pas un seul jour où il ne passe pas dans un village où il y a eu des enfants accueillis pendant la guerre.
De nombreuses familles françaises ont accueilli ces enfants, parfois pendant des années. À partir de la chute des Asturies en octobre 1937, les franquistes, avec le soutien du Vatican, commencent à faire des demandes pour que ces enfants rentrent en Espagne, indépendamment du sort réservé à leurs parents. La propagande franquiste assure que ces enfants ont été kidnappés ou expulsés. En France, le demande de restitution se prolonge pendant des mois, voire des années. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse confirmer que la demande de retour était réelle et venait bien des parents. À partir du début de la guerre en Europe, les familles commencent à accélérer les retours de ceux qui étaient restés. La France ne peut plus les héberger. Mais le cas de l'Union soviétique, qui a coupé les ponts diplomatiques avec l'Espagne de Franco, est un peu différent. Staline refuse de croire aux promesses de Franco et les enfants accueillis par Moscou doivent souvent attendre d'être majeurs pour revenir en Espagne.
Dans ce cas, les retours vont se faire au compte-gouttes et par des voies indirectes, c'est-à-dire des demandes qui vont arriver, par exemple, de France. Mais ce sont vraiment des cas très isolés. La plupart de ces enfants ne sont revenus qu'en 1956, après la mort de Staline. Et en fait, je pense que les premiers qui reviennent sont sur le même bateau que les soldats espagnols rapatriés de la Division Bleue en 1956. Dans les années suivantes, il y a un phénomène assez étrange qui va se produire, parce que beaucoup de ces enfants devenus adultes ne vont pas pouvoir s'intégrer dans l'Espagne franquiste. Ils vont être des gens qui vont être surveillés en permanence, parfois interrogés, souvent par la police. Et on pense même que la CIA, parce que beaucoup d'entre eux racontent parfois qu'ils ont été interrogés par des policiers qui avaient des accents mexicains, c'est-à-dire qui étaient peut-être des agents américains, qui voulaient obtenir des informations sur la situation en Union soviétique. C'est alors qu'ils sont rentrés dans de nombreux cas en raison de la pression sociale et de la difficulté à s'intégrer, ils retournent en Union soviétique. Certains sont également retournés en France, en Belgique, etc. Avant même l'émigration des années 1950 et 1960, certains reviennent même dans les mêmes familles qui les avaient accueillis étant enfants. Il était également difficile dans certains cas de s'intégrer dans une société très fermée, très autoritaire, avec de nombreuses restrictions et dans de nombreux cas idéologiquement opposées à la position de leurs parents.
L'importance du port de Bordeaux a été majeure pour l'arrivée des réfugiés. On sait qu'à partir de l'automne 1937, certains sont arrivés pour être directement mis dans des trains en direction de l'Espagne. C'est donc difficile d'avoir un chiffre approximatif du nombre d'Espagnols qui ont pu passer à Bordeaux à ce moment-là. Dans les prochains podcasts, je voyage à Angoulême, théâtre d'un épisode fort sur le sort réservé aux Espagnols ayant fui la guerre d'Espagne. Thank you.
Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Merci Maria Diaz-Valderrama. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Hernier et Gabriel Taïeb. Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.